بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. شفر عن الإسلام. La semaine d'avant, on avait conclu les versets 6, 7, 8, 9, 10 et 11 qui décrivaient le Jahannam, qui décrivaient l'enfer, la situation des gens qui entrent de l'enfer, la couleur de l'enfer. On avait parlé un petit peu des châtiments et de l'importance pour que chaque waliyul amr, chaque responsable de famille, fasse le maximum d'efforts pour mettre en pratique le verset « Ô vous qui avez la foi, protégez-vous et protégez vos proches du feu de l'enfer ». Ce soir, Inch'Allah, dans le verset, dans les deux ou trois versets qu'on a lus, du verset 12 au verset 14, on va avoir une description qu'Allah Azza wa Jal donne donc dans le Suratul Mulk concernant les muttaqin, les gens qui sont pieux, ceux qui sont qualifiés comme étant des gens pieux. Dans ces versets, Allah Azza wa Jal nous révèle ceux qui redoutent leur Seigneur, bien qu'ils ne l'aient jamais vu, auront un pardon et une grande récompense. Ce qu'on retient, c'est déjà les premiers mots du verset, ceux qui redoutent leur Seigneur. Donc ça, c'est la crainte d'Allah. Inna alladhina yakhshawna rabbahum. Le khashyatullah, c'est la crainte d'Allah. Hein, c'est un terme qu'on a l'habitude d'entendre. Maintenant, il y a une explication. C'est quoi réellement yakhshawna rabbahum? Celui qui a la crainte d'Allah, c'est inna alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Bil ghaibi. Et puis là, il y a deux tafsirs, et même selon les versions, il y a parfois même deux traductions pour voir, pour comprendre qu'il y a deux interprétations, mais les deux se rejoignent. Les deux se rejoignent. Il y a celle qu'on a lue là, ceux qui redoutent leur Seigneur bien qu'ils ne l'aient jamais vu. C'est une qualité des croyants aussi, oui ou non? Alladhina yu'minuna bil ghaib, nous adorons un Rabb, un Seigneur que nous n'avons jamais vu, un Seigneur que nous n'avons jamais entendu, avec qui on n'échangera jamais et duquel on ne recevra jamais de wahid, de révélation. Mais malgré ça, on croit, subhanallah, on croit en Allah plus que je crois en la présence de Bilal, de Anwar, de Isa, de Nabil, de Muhammad, oui ou non? On y croit plus encore. Parce que ça, plus on croit à notre Rabb, notre Seigneur, en fait, quelle est l'expression, la concrétisation de cette croyance en Allah? C'est l'accomplissement des bonnes actions. Parce que c'est quelque chose de dire « je crois en Allah ». Maintenant, ce Rabb, ce Allah que tu n'as jamais vu, te demande de changer ta vie. Te demande d'accomplir des choses que tu n'as pas envie de faire. Qui est-ce qui a envie de se lever à 4h30 le dimanche matin? Ce Seigneur te demande de ne pas manger 30 jours de l'année. Ce Seigneur te demande de faire les prières de la nuit jusqu'à telle heure. Il te demande de donner 2,5% de tes biens annuels, de tes bénéfices. Des choses que un nafs, l'ego, n'a pas envie de faire. Mais la concrétisation de la crainte d'Allah, la concrétisation, la crainte c'est une autre étape. La concrétisation de la foi en Allah, c'est que tu vas changer ta vie pour ce Seigneur, que tu n'as jamais vu, jamais entendu, mais tu y crois, Dieu comme fer et plus encore, au-delà de ces métaphores. Ça, c'est la concrétisation de ton iman en Allah. Donc là, on a précision, « Inna alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib », ceux qui croient en Allah, alors qu'ils ne l'ont jamais vu, comme on l'a dit, c'est la qualité essentielle, intrinsèque de chaque croyant. Et qui ne demande pas des preuves pour croire, ça c'est très important. Contrairement à, machin, celui qui connaît, qu'est-ce qu'on peut lui donner comme récompense? J'ai rien, je suis désolé. J'avais donné un peu de oud, j'ai oublié mon flacon de oud à la maison. Rêve. La ventoline, si vous voulez. Ne jamais demander de preuves pour croire, contrairement au. Hein? Contrairement au. Au Banu. Au Banu Israël, oui. Contrairement au Banu Israël, qui eux demandaient à voir. Ils ont demandé à Moussa Arina Allah jahratan. Ici, selon, si je ne me trompe pas, selon cette version, on parle même que c'était parmi l'élite des Banu Israël. Ils voulaient voir Allah. C'est-à-dire, c'est des gens qui voulaient des preuves pour croire. Et même quand ils avaient des preuves, parfois ils remettaient en question les preuves. Quand ils ont obtenu l'aide d'Allah, quand Allah a fendu la mer en deux pour eux pour qu'ils traversent, et qu'ensuite Allah Rabbul Izzah a permis à Pharaon d'entrer et ils ont été détruits, ils ont péri du premier jusqu'au dernier, c'était là une nusra extraordinaire. C'est certainement une des plus grandes nusras d'Allah pour n'importe quelle population. Bon, c'est vrai que Badr c'était impressionnant, les anges qui étaient venus. Mais là, voir une armée de je ne sais combien, de centaines de milliers, dans cette interprétation, on parle même, ça a avoisiné le million de personnes, période en quelques secondes, c'était une nation, c'était vraiment, c'est nation dans le sens français, pas dans le sens mauricien, d'accord, c'était vraiment un empire, c'était un empire qui était détruit. Quand on parle de l'empire, pharaon, il n'y a pas un seul pharaon, c'était, subhanallah, il y en a, je ne sais pas, 10 ou 12. C'était un empire qui a été détruit. Il n'y a plus eu de descendants. Subhanallah. Donc c'était une nusra extraordinaire. Malgré ça, ils ont commencé à adorer le veau d'or. Malgré ça, ils ont désobéi à Moussa al-Islam maintes et maintes reprises. Ils ont poussé, entre guillemets, à bout Nabiullah Moussa al-Islam. Donc ça, c'est le comportement à ne pas suivre. Et quand on lit Fatiha, il y a de ça aussi. غير المغضوب عليهم ولا الضالين الضالين الكنسيكين والمغضوب عليهم ils ont couru la colère d'Allah parce qu'ils avaient eu tout. Allah leur avait tout donné. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. Les trois يا بني إسرائيل. Tout ce qu'Allah leur avait accordé comme bienfait, à chaque fois qu'ils obtenaient quelque chose, ils étaient contents, satisfaits. Quelque temps après, ils oubliaient le bienfait. Ils retournaient vers les erreurs. Et demander plus. Attention, hein. Est-ce qu'on ne reconnaît pas là un schéma? Est-ce qu'on n'a pas des points communs avec ce schéma? On doit faire très attention. D'où l'importance de Qasasul Anbiya, l'histoire des prophètes et l'histoire des peuples d'avant. Ça, c'est une richesse que nous avons dans le Coran. Nous pouvons retracer l'ensemble des nubuwat, l'ensemble des prophéties. Et chaque peuple se caractérise par un défaut, un péché. Et les Banu Israël, c'était l'ingratitude, entre autres, d'accord, la désobéissance, l'ingratitude. Donc, on n'est pas de ce cas, parce que celui qui a la crainte d'Allah, inna alladhina yakhshawna rabbahum, ça se passe bil ghaibi, alors qu'on ne voit pas Allah et qu'on ne demande même pas à voir Allah, mais on a un tel iman en Allah que ce Rabb nous demande de changer notre vie, d'aller à l'encontre de notre nafs, de baisser ton regard alors que tu as envie de tout regarder. Tu es dans un monde de fitna où il suffit de prendre une chaise longue et tu mets dans la rue des bons enfants ou Jules Béa ou là, et tu vois, c'est même pas en 3D, c'est en vrai, sauf que tu n'as pas le droit de toucher sinon tu vas en prison, mais tu vois tout ce que tu peux imaginer. Allah musta'an, mais tu ne le fais pas alors que le cœur penche pour ça. Tu vois des trucs à manger et tout, tu sais que c'est pas halal, tu as envie, passe près d'une pâtisserie où tu vois des gâteaux et tu baves et tout, mais tu dis oui, mais c'est pas halal, c'est pas forcément halal. Craser son nafs. Tu fais ça pour qui? Pour Afundi? Pour Amolissab? Pour la communauté qui vont dire des trucs sur toi? Pour l'honneur de ta famille? Il n'y a pas tout ça. Tu fais ça parce que tu fais ça pour Allah. Et si quelqu'un dit mais t'es malade, ton Dieu, tu l'as vu? Tu l'as entendu? Tu te prives de ça pour ce que tu crois être un Dieu et que tu ne le verras jamais. Tu dis, mais ça c'est iman, c'est quelque chose que tu ne peux pas comprendre. Ça va au-delà de toute équation ou preuve physique ou tout ce que vous pouvez imaginer. Et c'est au-delà de tout ce qui peut arriver comme raisonnement des personnes les plus intelligentes, esprit cartésien ou cohérent, et qui ont, à force de réfléchir, quelle est la plus grande, quelle est la seule réalité que la logique humaine a pu prouver? Quelle est? Vous connaissez l'histoire du panier de pommes? Rousseau, chaque fois il enlève une pomme, c'est-à-dire une idée, il dit que comme c'est pas cohérent, il n'y a pas de preuve, on évacue, en finalité il reste le panier, et il dit, je pense, il a repris ça, je pense, donc je suis la seule chose dont je suis sûr, si je suis un raisonnement logique de philosophe, on pourrait dire, seule chose qui est sûre, c'est que j'existe. Le reste, on n'est pas sûr. Ouais, ben, ça, loin, mon frère. Moi, je le savais depuis que je suis né. Parce que Allah m'a dit, nous a dit, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا خَلَقْتُ. J'ai été créé. Je suis la créature d'Allah. Et nous, on est à un niveau dessus parce qu'on sait pourquoi on a été créé. On n'est pas en train de chercher qui suis-je, où vais-je, pourquoi moi, pourquoi pas lui. On sait quel est le but de notre création et c'est quoi le ajal. C'est quoi les limites, c'est quoi l'objectif. C'est magnifique ça. Le fait de donner un sens à ta vie. Le fait de savoir à quoi ça sert de vivre. Quand tu vois la barbe, Allah Akbar. Vous allez dire que c'est un peu bête, je ne sais pas. Mais il y a des fois où, à travers... Tu ris déjà? La vanne n'a pas commencé. Il y a des fois où, à travers une expérience personnelle, on, Wallahi, on se rend compte d'énormément de choses. J'étais en face de Scorchatel, garé dans ma voiture. C'est chez les Arabes, en ville. En ville. Et il y a une personne qui est passée, personne un peu âgée, je l'ai regardée, c'est une personne que je voyais, il vivait, enfin il était tout le temps dans le bus. À l'époque on était lycéen, tout le temps dans n'importe quel bus il est là. C'était des gens qui, voilà, ben, peut-être qu'ils circulaient, ils avaient le droit aussi. Peut-être ça coïncidait avec nos horaires, mais c'était des personnages mythiques. Celui qui prenait les bus du centre-ville de Saint-Denis, il ne pouvait pas ne pas connaître ce monsieur. Il marchait avec un espèce de bâton bizarre, on n'a jamais compris c'était quoi. Voilà c'est qui. Il est là, tout le temps il est là. Il est là tout le temps. Et je l'ai vu aujourd'hui, et je ne l'avais pas vu depuis, peut-être depuis, je ne sais pas quand. Hein. Oula, je ne vais pas dire trop de trucs, ça va me vieillir. Mais je l'ai vu, il était âgé. Il était toujours en train de voilà, circuler. Je dis que subhanallah, il y a des gens qui ont cumulé 15 ans. 20 ans, ils ne se sont pas prosternés une fois devant Allah. Ya la khasara. Et là, du coup, ça te prend au niveau du cœur et tu te dis, c'est terrible. On voit des gens vieillir et mourir. On voit des gens vieillir et mourir et ils ne se sont jamais prosternés devant Allah. Et on sait qu'est-ce qui se passe après. Et après, tu te dis, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. On remercie Allah Azza wa Jal qui nous a donné iman. On vieillit comme lui. Il marchait comme ça, il boitait alors que c'était quelqu'un qui avait pas... Alhamdulillah, c'était la forme. Et on se dit que nous, on a pris de l'âge aussi. C'est bon, c'est plus, on a 15 ans de plus, pareil. Mais alhamdulillah, on a toujours la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah dans notre cœur. On a nos 5 salats yawmiyen tous les jours. On a jeûné 15 en Ramadan. On a été peut-être au Hajj ou au Umrah. On a lu le Coran régulièrement. Et là, tu te dis que le plus grand ni'ma, c'est l'iman. Le plus grand bienfait qu'Allah peut nous donner, c'est la foi. Parce que quelle que soit ta situation, que tu deviennes après 15 ans, si on arrête le temps depuis que tu es en seconde jusqu'à maintenant, et tu vois l'ensemble de tes amis, il y en a qui sont devenus médecins, docteurs, professeurs, avocats, il y en a qui sont morts, il y en a qui se sont suicidés, il y en a qui ont eu le cancer, il y en a, on ne sait pas, il y a plein de cas de figure. Les gens avancent de leur vie. Mais ils peuvent avancer avec autant de force, de potentiel et de réussite professionnelle, où ils ont devenu riches, ou immensément célèbres ou autre chose. Mais si toi tu avances avec la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Wallahi l'Azim, tu les dépasses tous. Parce que tu es dans le sirat al-mustaqim. Et c'est exactement ce qu'on demande tout le temps. Si après 15 ans tu te rends compte que tu es toujours musulman, c'est la grâce d'Allah. Ensuite, c'est parce que tu demandes ça à Allah tout le temps. Ihdina as-sirat al-mustaqim, ihdina as-sirat al-mustaqim. Si tu pries, tu ne lis pas ihdina as-sirat al-mustaqim, ta prière ne compte pas. Selon la majorité, l'avis d'une quantité de savants où la Fatiha est obligatoire. Et si la Fatiha c'est simple, c'est les 7 versets. Donc ihdina as-sirat al-mustaqim, c'est essentiel pour la validité des prières et c'est le doua que tu demandes à chaque unité de prière. Et donc, en voyant cette personne, on s'est rendu compte que le temps continuait à avancer. Il y a des gens que cette personne, peut-être, lui reste quelques années à vivre. Allahu a'lam, 5 ans, 6 ans, je ne sais pas c'est quoi. Et il n'y a pas la foi. Et on se dit que subhanallah. Et que quand Allah nous donne la foi, on remercie Allah. C'est pour ça que vous vous rappelez qu'on avait parlé la dernière fois de lorsque ces gens de Jahannam entrent dans l'enfer. Sa'alahum khazanatuha alam ya'atikum nadhir. On n'avait pas beaucoup développé ça. Il dit, est-ce qu'il y a personne qui est venu? Il a dit oui, mais فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ. On n'a pas voulu croire, on a dit qu'Allah n'a rien révélé, c'est pas vrai tout ça. Les gens n'ont pas voulu croire en la révélation d'Allah. Et donc là, par rapport à ce verset, on dit qu'il y a des gens qui se posent des questions. Oui, mais que dire de quelqu'un qui habite dans un village, dans telle région, en Amazonie? Est-ce qu'on considère que ces gens sont kafirs? Ils n'ont jamais entendu parler de l'islam. Ils ne connaissent aucune civilisation. Et je dis que, ok, il y a des grands savants, des vrais, qui ont réfléchi à ces massas. Ils ont donné leur réponse. Puis on a dit qu'il ne faut pas aller trop loin dans les réflexions. Ça t'apporte quoi de philosopher énormément? Tu as la foi en ce moment, la chose la plus importante et la plus productive que tu puisses faire, c'est de remercier Allah de t'avoir donné la foi. Ok, en Amazonie, il y en a qui n'ont pas la foi et qui meurent tous les jours. C'est un cas. Mais Allah, toi, Allah t'a donné la hidayah, alhamdulillah. Remercie Allah et travaille cette guidée. Augmente ta foi, prêche ta famille, tes proches et fais autant que tu peux. Ça, c'est une réaction plus productive plutôt que de philosophe. Il y a trop d'islamologues, il y a trop de philosophes, il y a trop de penseurs. On a besoin d'adorateurs sincères. On a besoin de gens qui « Inna alladina yakhshawna rabbahum bil ghaib ». On revient au verset 12. Donc, cette première lecture, c'est ceux qui craignent Allah alors qu'ils ne l'ont jamais vu. Et l'autre lecture, l'autre tafsir, c'est « Inna alladina yakhshawna rabbahum bil ghaib ». Alors, est-ce que j'ai écrit le tafsir, subhanallah? Le tafsir, bonjour toi, on avait écrit à la main, mais ça allait dans le sens où ceux qui craignent Allah dans n'importe quelle situation, même quand ils sont seuls et isolés. C'est pas uniquement devant les gens, parce que devant les gens, on est tous bien. Devant les gens, on est tous des gens bons. Hein? Mais quand on est seul, c'est autre chose. Quand on est seul, il y avait même, si je ne me trompe pas, c'était, je ne sais pas ce tabi'in, son nom m'échappe. Il demandait aux gens, ne me jugez pas, parce que vous ne savez pas, quand je ferme ma porte, qu'est-ce qui se passe après. C'est-à-dire que mon intérieur, personne ne peut juger, ne peut dire. On peut voir quelqu'un avec une apparence magnifique, ça c'est un homme pieux, c'est le top, c'est le plus grand savant que je connais, c'est le meilleur orateur. Mais après, chez lui, comment il se comporte avec sa famille, dans sa relation directe avec Allah Azza wa Jal, dans ce qu'il se permet en termes de halal et de haram. Quand il n'y a personne, quand il n'a plus la casquette de prêcheur ou de savant ou je ne sais quoi, on ne peut pas juger. On ne peut pas juger. On n'a pas de mauvaise pensée non plus, bien sûr. La base, c'est on juge les gens selon l'apparence. D'accord, on n'a pas à aller chercher, fouiller. Mais l'homme pieux, c'est celui qui a la crainte d'Allah dans toutes les situations, en toutes circonstances. En toutes circonstances, il pense à Allah Azza wa Jal. Et à propos de cette qualité, c'est une qualité, et bien Kathir dit. Non mais justement, c'était écrit là, c'était même pas écrit à la main, c'était imprimé. Amman yakhafu maqama rabbihi fi ma baynahu wa baynahu idha kana ghaiban 'anil nas. Lorsqu'il n'y a personne, il a le même degré de crainte d'Allah et d'amour d'Allah alors qu'il n'y a personne, que ce soit devant les gens ou seul, c'est la même présence d'Allah dans son cœur. Fayankaffu 'anil ma'asi. Et même quand il est seul, isolé, il ne fait aucun péché. Et il accomplit tout ce qu'il doit accomplir comme bonne action. Même si personne ne le voit à part Allah. Mais ce « illallah », ben il le ressent au plus profond de son cœur. Il a la conviction qu'Allah le voit. Tout le temps. Donc il ne peut pas décevoir Allah. Ça c'est à quoi? Bas. Et celui qui a ressenti ça, il n'y a pas besoin de grands discours, de grandes conférences. Cette personne a tout compris. Et les sahaba, eux, ils avaient tout compris. Ils avaient la crainte d'Allah. Et voyez, subhanallah, cette histoire-là, ce hadith, ça nous interpelle, le hadith de An Thabit, An Anas. Thabit qui rapporte de Anas ibn Malik, on dit que les sahaba, ils ont dit au prophète d'Allah, un groupe de sahaba, ils ont été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit « Ya Rasulallah, inna nakounu indaka ala hal, fa'idha faraqnaka kunna ala ghayri. » Le prophète d'Allah, quand on est avec toi, kunna ala hal. Vous dites quoi, ala hal? Non. Si nous sommes dans une certaine situation. Hala, en arabe c'est jama' ahwal, situation. Et là on parle de situation spirituelle. Quand on est auprès de toi, Ya Rasulallah, on éprouve la crainte d'Allah. Ça ne vous rappelle pas une autre histoire? Celui qui trouve, mashallah, je n'ai rien à vous donner. Désolé. Mais Allah élève votre grade. L'histoire d'un sahaba qui était auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sentait puissance de foi, de iman.
Et quand il retourne chez lui, il joue avec ses enfants, il est auprès de sa femme. Et là, il a un doute. Et il va retrouver le prophète alayhi salatu wassalam. Il dit au prophète d'Allah, en prenant son nom, je suis devenu un hypocrite. Comment s'appelait-il? Barakallahu fik Hamzala radiallahu anhu. Et si je ne me trompe pas, il avait rencontré un autre sahaba qui a dit que j'éprouve la même chose. C'était Abu Bakr Siddiq, barakallahu fik wa fik wa fi ahlik wa fi awladik. Il dit, le prophète dit au prophète d'Allah, j'angoisse. Pourquoi tu angoisses? Je retranscris. Il est angoissé. Il dit que quand on est auprès de toi, on ressent cette présence de foi. On a tous ressenti ça. Quand on est bien spirituellement, quand on sent, quand il y a des fois où vous accrochez, dans la namaz, dans la salah, vous y êtes. Vous y êtes et c'est tellement beau qu'on aimerait que ça ne s'arrête jamais. Vous y êtes. Pas forcément le imam lit bien. Des fois vous êtes des yeshurim, soudais, vous n'avez pas la concentration. Il y a des fois vous y êtes, vous l'avez. Il y a des fois vous pouvez être dans n'importe quel bait, min buyutillah, vous ressentez quelque chose. Il y a une présence spirituelle, il y a une concentration, il y a une dévotion où vous vous accrochez et c'est très fort, très intense. Je me rappellerai toujours de, subhanallah, Hassan, Cheikh Hassan Ali Cheikh, qui est Cheikh, c'est le nom d'une tribu, un des a'imma de Al-Masjid Nabawi, qui une fois la salat al-Jum'a avait lu, si je ne me trompe pas, c'était « Iza zulzilat » un surat, je crois, « Iza zulzilat al-Ardo » ou un autre surat qui est connu, « Ma'rouf », c'est des surats que les enfants mémorisent. Et il pleurait, il n'arrivait plus à continuer sa lecture, tellement il pleurait. Non, c'était le verset qui décrivait le paradis. « Wana ma'ruf masoufa » tous ces versets qui décrivent l'ahwal, les ni'am, les bienfaits des gens du paradis. Mais c'est des versets qu'on connaît. Hal ataka hadithul ghashiya, on connaît. Qui ne connaît pas Hal ataka hadithul ghashiya? Mais il a eu cette concentration et que quand il parle de ses descriptions, c'est comme si qu'il le vit. Là, quand tu accroches très fort. Des fois, vous êtes devant la Kaaba, ça accroche pas. Et des fois, vous êtes près du Multazam, ça démarre plus fort qu'une Bugatti, plus fort que je sais pas les voitures qui vont très vite. Ça démarre très fort. Vous avez une connexion divine, c'est très puissant, très intense. Vous pouvez même plus compléter vos doigts. Tellement vous pleurez d'amour pour Allah. Et là, tu n'as plus besoin de demander doigt. Ma yahtaj. Reste comme ça, bas. Et sois égoïste. Laisse pas les autres. Continue. Fais doigt. Reste là. Reste le torse collé contre Multazam, la partie entre la pierre noire et la porte de la Kaaba. Et jouis de ce rahma qui descend. C'est magnifique. Ceux qui n'ont pas été, qu'Allah Rabbul Izzah vous amène. Rapidement. Faites des économies. Faites des économies et faites l'intention d'y aller dès que ce sera possible. Inch'Allah, Allah ouvre chemin. Donc on a tous ressenti ces moments de iman énorme. Mais ça c'est notre summum à nous. Mais quand les sahaba, eux, ils atteignent le summum, excusez-nous, mais c'est autre chose. C'est un autre niveau. Et quand ils retournent chez lui, il a l'impression d'être un hypocrite. C'est pas que quand il est rentré chez lui, là c'est Hamzala, mais après c'est... On revient avec notre histoire, c'est, ça va dans le même sens. Lorsqu'il rentre, il se rend compte qu'en étant avec son épouse, où il reparle des choses mondaines, où il est avec les enfants, qu'il n'a plus cette présence de iman. Et en commentaire, les muhadithines disent, c'est pas que, astaghfirullah, quand il est rentré, il a vu quelque chose de haram, il a regardé, ou il a écouté quelque chose de haram, ou il est parti vers un péché. Abadan wallah. C'est juste que il a recommencé à aimer sa femme et ses enfants. Et il a l'impression qu'il est en train de trahir son iman. Pourquoi est-ce que j'ai pas la crainte d'Allah tout le temps? Angoissé, tellement angoissé qu'il laisse femme et enfant, il court à la prostate, il a peur. Comme, exemple un peu décalé, vous avez reçu votre résultat d'analyse de sang sur internet. Il ne faut jamais faire ça. Parce que vous allez interpréter des trucs en gras et vous n'êtes pas médecin. Donc ne le faites pas. Il vaut mieux attendre, c'est le médecin qui ouvre l'enveloppe. Bref, parce que parfois comment on appelle ça? La personne du laboratoire, c'est juste qu'il a oublié de... Il a cliqué en gras, c'est tout. Il a oublié de décrocher la touche. Voilà, donc vous voyez plein de trucs en gras. Imaginez que tout le texte en gras, vous mourrez tout de suite. Voilà, c'est ma yahtaj. Tenez s'il vous plaît aussi. Ah, ça aussi c'est en gras. C'est compliqué là. Bref, donc, comme si quelqu'un reçoit ses analyses de sang, son bilan sanguin, sur internet et il voit des trucs, les plaquettes, ça c'est pas bon, comment il angoisse, c'est plus quoi faire. On est en week-end, qui va me recevoir? Il va aller aux urgences, il va aller à ce médecin, téléphone le 15, vite recevez-moi, lisez ça, qu'est-ce qui est écrit? Est-ce que je vais mourir? Est-ce que j'ai un cancer? Est-ce que j'ai une maladie grave? Pourquoi c'est écrit telle chose? Parce que la personne a peur pour sa vie. C'est ce qui fait qu'une personne peut quitter immédiatement sa maison pour aller voir un homme quand il craint pour sa vie, sa santé. Sahaba, il quitte sa maison, il va voir le prophète parce qu'il craint pour sa foi. Est-ce qu'à un instant de notre vie, on s'est posé une question sur notre situation, notre état spirituel? Est-ce qu'à un moment donné, on s'est demandé, est-ce que Allah est content, satisfait de moi? Est-ce que ma situation de croyant est suffisante? Est-ce que ma qualité de salat est suffisante? Est-ce que mon investissement pour la religion est suffisant? Est-ce que mon éloignement face au haram est correct? Ou alors je me permets encore des écarts? Ou alors je me permets encore des exceptions? Je m'invente des excuses? Ça c'est, les savants disent, quand une personne se fait en permanence du souci pour son iman régulièrement, ça c'est une présence de iman. C'est une présence de foi réelle, forte et sincère. Alhamdulillah. Anas bin Malik dit que on était voyant Rasulallah, inna nakunu indaka ala halin fa idha faraqnaka kunna ala ghayri. Nous sommes avec toi et nous connaissons le summum sur le plan spirituel, mais quand on se sépare, ça change. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pose une question. Kayfa antum wa rabbukum? Comment est-ce que, c'est un peu difficile de traduire, il faut traiter trois mots d'une grande simplicité. Kayfa antum, pronom personnel, wa et rabbukum, votre Dieu. Ce qui veut dire que quelle est la nature de ta relation avec Allah en général? Ta relation avec Allah, elle est comment? Le prophète ne m'a pas posé question, mais tu ressens quoi exactement? Qu'est-ce qu'il y a en moi? Non. Comment est-ce que tu conçois ton Seigneur d'une manière générale? Sahaba dit Allahu Rabbuna fi sirri wal alaniya. Il a dit Allah, c'est notre Seigneur devant tout le monde, mais également en secret. Il dit au prophète d'Allah, ça c'est sûr. On aime Allah, on a la crainte d'Allah tout le temps. Que ce soit avec toi, devant tout le monde, dans la masjid ou seul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que laysa dhalikum an-nifaq. Ça c'est pas l'hypocrisie. Il a rassuré ce sahaba, il dit c'est pas l'hypocrisie, ne t'inquiète pas. Il y a un commentaire, les savants, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent déjà, ça nous prouve que le croyant doit se faire du souci régulièrement pour son iman. Et le mi'yar, ce qui te permet de savoir est-ce que tu penches vers l'hypocrisie, le nifaq, ou tu as réellement iman, c'est de savoir, c'est d'analyser quelle est ta relation profonde et réelle avec Allah. Et pas uniquement dans la mosquée ou devant les gens, quand tu es seul chez toi. Quand il n'y a plus personne pour t'empêcher de faire le mal, ou il n'y a plus personne pour t'ordonner de faire le bien, ou il n'y a pas la pression sociale, et ainsi de suite, le regard des gens, comment est-ce que tu te comportes avec Allah? Si, même à cet instant, tu dis que, même quand je suis seul, jamais je peux imaginer une fraction de seconde de désobéir à Allah délibérément, c'est qu'il y a iman de le cœur. Maintenant, si quand il n'y a personne, on se laisse aller, c'est qu'il y a nifaq de le cœur. Très simple. Pour connaître, est-ce que la foi est installée dans le cœur ou la foi est à la surface et il y a autre chose, il y a de l'hypocrisie dans les cœurs. Et on conclura avec ce hadith. Je ne sais pas si on tient en 20 minutes. Ajib, on en est à 28. On conclura par ce hadith qui est très connu, hadith qui nous intéresse de plus en plus. Hadith de, je n'ai pas le nom de ce sahaba, mais c'est rapporté par Bukhari Muslim. Hadith dans lequel le prophète alayhi salam décrit les sept catégories de personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal, yawma la dhilla illa dhillu, le jour il n'y aura d'ombre si ce n'est l'ombre du arche d'Allah, du trône d'Allah Azza wa Jal. Fa dhakara minhum, et parmi ces personnes il a cité rajulan da'athum ra'atun dhat mansibin wa jamalin fa qala inni akhafu Allah wa rajulan تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. رواه البخاري ومسلم. Un homme qui reçoit des avances d'une femme qui est belle et d'une femme de la haute société et qui dit إني أخاف الله, qui refuse les avances de cette femme. On ne va pas entrer dans les détails du hadith, mais en général c'est l'homme qui va vers la femme, qui drague comme on dit bêtement, mais là c'est le contraire. Et vous connaissez, on connaît tous la faiblesse de l'homme et la sensibilité de l'homme par rapport au moindre gestuel ou au moindre signal qui peut venir d'une femme. Si vous voyez une femme dans la rue ou alors au feu rouge, la voiture, fait un petit clin d'œil ou un petit sourire comme ça, c'est une décharge que tu prends de le cœur. Alors qu'il te parle, le gars de gauche, et tu passes pour un troll. Mais c'est pas grave. Le fait de voir une femme, qui est jolie, d'accord, qui te fait un petit signe ou voit un signe amical où on sent qu'il y a un message, ça, il y a un petit électrochoc. Après, la foi, il revient, il dit non, on déconne pas. On n'est pas n'importe qui, on est des musulmans, d'accord. On a fait un pacte, on s'est soumis à Allah jusqu'à la mort. Donc on ne fait pas comme, soit on suit Allah, soit on suit la hawa. Suis mon nafs, waouh, c'est trop bien, je regarde ton numéro et tout. Et puis il n'y a plus de différence. Après, il n'y a plus de différence entre celui qui a iman, celui qui n'a pas iman. Et puis comment est-ce qu'on veut qu'il y ait une différence? Et puis on veut qu'il y ait une différence là-haut. Si on adopte le même mode de vie, le même comportement de ceux qui n'ont pas la foi, comment pouvez-vous espérer qu'ensuite là-haut, ben on se distingue de ceux qui n'ont pas la foi, alors qu'on prend le même chemin, on commet les mêmes erreurs. Ah, fia. Donc l'homme est extrêmement sensible à ça. Et là, ça va plus loin. C'est une femme qui séduit cet homme et qui l'invite vers le haram, vers l'adultère, vers le zina. Et que rien n'empêche cet homme d'accomplir l'adultère. Il n'y a aucun ha'il, il n'y a aucun obstacle. C'est pas que sa femme risque de découvrir l'histoire, c'est pas que sa famille est là, c'est pas que des gens de sa communauté, non, il n'y a rien. Toutes les conditions sont réunies pour que l'adultère soit accompli. C'est comme l'histoire de ce jeune qui était dans la grotte et qui rêvait d'avoir des relations avec une personne dont il était amoureux depuis des années. Et quand il est, le hadith, les termes sont clairs, pour ne pas dire crus, lorsqu'il est assis entre les jambes de cette femme, c'est là que cette femme dit « crains Allah » et là il craint Allah. Les savants disent pourquoi est-ce que le hadith pousse la description, les détails de façon aussi précise, pousse aussi loin, pour qu'on réalise qu'à ce moment-là, il n'y a aucun obstacle, si ce n'est un rapprochement du corps entre le zina et ce qu'il souhaite vraiment faire. Entre cette situation il n'a pas fait, il n'a rien fait et qu'il a envie, et la réalisation de son rêve, l'adulter avec cette personne dont il est amoureux. Et c'est à ce moment-là qu'il y a la crainte d'Allah. La crainte d'Allah, c'est quelque chose qui n'est pas lié à un autre facteur. C'est vraiment pour Allah, uniquement pour Allah. C'est pas j'ai la crainte d'Allah et la crainte de tout le quartier de la Tanié qui va me voir et qui va dire qu'on a vu telle personne avec une femme de la rue ou telle personne avec une bouteille d'alcool en face des 2000 en train de se saouler. On va dire que là, c'est pas que la crainte d'Allah, c'est également le regard des gens. Non, là c'est uniquement par moi et par crainte d'Allah. Donc cette personne qui a répondu à cette femme, on revient à l'histoire de cette catégorie de personnes, elle a dit inni akhafullah, je crains Allah. Donc je te suis pas de ce péché. Et l'homme qui donne la sadaqa avec une telle sincérité que sa main gauche ne sait pas ce que sa main droite a donné, c'est une métaphore pour qu'on comprenne que l'homme est extrêmement sincère, c'est le mot. Celui qui a la crainte d'Allah en toutes circonstances est un homme qui est sincère, ikhlas. Celui qui craint Allah, qui manifeste la crainte d'Allah en public, mais qui n'a aucune crainte d'Allah en privé, la personne n'est pas sincère. Donc ce qu'elle fait, c'est pas... Voilà, vous avez mis les mots vous-même. Ce qu'il fait en public, c'est l'innas, c'est pour les gens. C'est pas pour Allah. Parce que Allah était avec lui quand il était avec les gens, mais Allah est avec lui quand il est seul aussi. Dans les deux situations, Allah est avec lui. Quand il y a les gens, il est pieux. Ça veut dire que le facteur gens, c'est important pour lui. Donc c'est riya, tentation. Et quand il est seul avec Allah, il ne pense plus à Allah. Ça veut dire que dans son cœur, il n'y a pas de sincérité, il y a de l'hypocrisie. Il présente quelque chose, mais le fond est différent. Et donc, la conclusion d'Ibn Kathir, pourquoi est-ce qu'Ibn Kathir cite le hadith? Pour qu'on voit que dans ces deux catégories de personnes, il y a la sincérité. Il y a la crainte d'Allah, la recherche du contentement d'Allah en toutes circonstances, et c'est cette qualité qui est énoncée dans... Et quelle est la récompense annoncée? On peut conclure avec ça. Lahum maghfira wa ajrun kabir. Ils auront un pardon et une grande récompense. C'est-à-dire, ils ont La promesse, ils ont la promesse qu'Allah Azza wa Jal va pardonner leurs péchés. Et n'est-ce pas ce que nous recherchons tous? Quand vous consacrez vos nuits impaires dans les derniers cas du Ramadan, qu'est-ce qu'on demande en premier à Allah? Pardon. Quand on est à Arafat, qu'est-ce qu'on demande en premier à Allah? Pardon pour nos péchés. Près du Multazam, quelles que soient les situations, on est toujours à la recherche du pardon d'Allah pour nos erreurs. Et ces gens-là, ils ont reçu la promesse, lahum maghfira, Allah qui promet. Ils ont le pardon. Et, wa ajrun kabir, en plus d'avoir le pardon, ils auront une grande récompense. Et les Mufassirin disent que cette récompense a été qualifiée par kabir. Il y a l'adjectif qualificatif, kabir, en plus de ajr, c'est récompense. La récompense, elle vient duquel? Elle vient d'Allah. Mais ça a été qualifié comme ajrun kabir. Et qui c'est qui le qualifie comme kabir? C'est Allahu Akbar, celui qui est au-dessus de tous, Allah le plus grand. Si Allah qualifie cette récompense comme étant quelque chose d'énorme, c'est que c'est magnifique. Parce que ce même Allah a comparé ce dunya, ce monde. Il ne vaut pas plus que l'aile d'une mouche ou d'un moustique ou d'un moucheron. Et ce même Allah décrit cette récompense comme étant kabir. Donc si on fait une petite comparaison en termes d'échelle, tout ce qu'on peut contempler comme bien, richesse, qui fait tourner la tête des gens, c'est rien pour Allah. Mais la récompense qu'Allah a promis pour ceux qui ont la crainte d'Allah tout le temps, c'était qualifié comme une récompense qui est kabir, qui est grande. Donc on comprend que celui qui a réuni cette qualité, ce qu'il aura auprès d'Allah, c'est tout simplement exceptionnel. En plus du pardon pour ses péchés. Et c'est exactement ce qu'on recherche. Le pardon des péchés et l'accomplissement des bonnes actions. C'est ça le mizan, la balance, jour de Qiyama. On pèse quoi? Les bonnes actions, les péchés. Attention qu'il y ait beaucoup de péchés. Attention qu'il n'y ait pas suffisamment de bonnes actions. Mais là, tu as les deux, bingo. Tu as les péchés qui sont pardonnés et tu as ajrun kabir. Une grande quantité de récompense qui sera greffée à tes comptes. Qu'Allah Rabbul Izzah nous accorde cette qualité et nous donne la possibilité d'avoir l'amour et la crainte d'Allah en toutes circonstances. Fils Sidri wa la'alan. Tant devant les gens, mais surtout lorsqu'on est seul, parce que celui qui l'a eu, c'est quelqu'un qui a tout eu de la part d'Allah. C'est quelqu'un qui a été accepté par Allah Azza wa Jal. On verra la suite la prochaine fois, le verset 15. وَأَسِرُّ قَوْلَكُمْ. Ça va dans le même sens, mais on s'arrête. أَوِجْهَرُوا بِهِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Que vous cachiez votre parole, ou la divulguiez, il connaît bien le contenu des poitrines. Que tu le dises, que tu gardes dedans, Allah sait, il entend ce que tu dis, mais il sait également ce qu'il y a dans les cœurs. On va essayer de développer ça pour mieux comprendre encore l'importance d'avoir la crainte d'Allah intérieurement et en toute situation. Wa tawfiqillah billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah.